et bienvenue sur Radio Galère. Vous êtes avec Chris et Jus et Letty et on va vous parler ciné. Aujourd'hui, on parle Star Wars. Salut Chris, salut Jus, ça va bien ?
Salut, ça va, ça va.
Ça va.
La première question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que vous pouvez me raconter chacun votre tour la première fois que vous avez vu Star Wars et qu'est-ce que ça vous a fait ?
Alors moi, la première fois que j'ai vu Star Wars, je devais avoir, je pense, 4 ou 5 ans. En cassette. C'est mon père qui m'avait montré ça quand j'étais gamin. Et voilà, en fait, ce qui était intéressant dans mon visionnage de Star Wars à l'époque, c'est que les 4, 5, 6 en cassette, je les mettais toujours dans le désordre. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas l'ordre chronologique et du coup, pour moi, c'était juste une entité genre Star Wars en VHS. Et ça s'enchaînait comme ça et je les mettais en boucle.
Mais t'avais quel âge quand tu les as vus ?
5 ans. 4, 5 ans, je pense. C'est vraiment dans l'ADN profondément.
Jus, dis-moi comment t'as découvert Star Wars ?
Bah à peu près pareil, sauf que du coup ça fait longtemps donc j'ai plus trop de souvenirs, mais ouais en VHS c'était mon père aussi qui.
Alors pour les jeunes qui écoutent, les VHS c'était une bande magnétique, voilà, c'était une façon de voir les films à l'époque. C'était bien avant le DVD, bien avant le Blu-ray disque évidemment.
Et surtout quand on a grandi aussi avec les jouets en plus du coup que nous achetaient nos parents.
Bien sûr.
Vous aviez des jouets préférés, pardon.
Plein de jouets Star Wars.
Vous aviez des jouets préférés Star Wars ?
Ah, bien sûr. Dark Vador, évidemment. La figurine parfaite pour un enfant, quoi. C'est vrai que c'est un univers qui te donne vraiment envie, qui est très ludique et qui est très stimulant. Quand t'es gamin, tu as envie d'avoir ces personnages en jouets. Ça a été pensé de cette façon, de toute façon. Donc,
Moi, j'ai plusieurs têtes de personnages de Star Wars qui s'ouvre et à l'intérieur il y a un décor du film. Tu peux jouer avec des petites figurines dans les têtes des personnages.
En soi c'est des polypockets un peu pour garçons quoi.
C'est exactement ce que j'allais dire, je me suis dit putain, ils sont allés chercher, ils se sont vraiment dit genre comment est-ce qu'on va leur faire avaler des polypockets, ok on va mettre ça dans la tête de ces 3 PO.
C'est ça exactement.
Et j'adorais ces jouets.
Ok, alors moi par contre, quand j'ai découvert Star Wars super tard, c'est un pote un jour qui a découvert quand j'avais peut-être 20 ans que j'avais jamais vu les Star Wars, et du coup il m'a dit écoute, si tu veux qu'on reste amis, il faut que tu vois les Star Wars. Du coup j'ai maté les 6 Star Wars. Je ne fais pas partie des gens qui apprécient cette saga, donc ça va être une émission je pense très rigolote.
Alors tu es notre ennemi.
Je fais partie du côté obscur.
Alors pour commencer, on va, je vous ai préparé un petit jeu. Ça s'appelle les Oscars de Chris et Jus. Je vais vous donner les catégories des Oscars et vous allez devoir me donner quels sont les gagnants de vos prix selon vous dans la catégorie Star Wars.
C'est carré.
Alors d'abord, évidemment, Oscar du meilleur épisode.
Le retour du Jedi.
L'Empire contre-attaque.
Alors, meilleur épisode ou épisode préféré ?
Bah, c'est un peu la même question vu que c'est vous le jury, quoi.
Pas du tout, ce n'est pas la même question. Pour moi, meilleur épisode, ça serait comme il dit Jus, L'Empire contre-attaque, puisque objectivement, c'est un film qui est plus carré, plus parfait que Le Retour du Jedi, mais émotionnellement, c'est le 6 que je préfère. C'est un peu complexe pour moi.
Ouais, émotionnellement, c'est le 5. Cinématographiquement aussi.
Tu penses que le 5 est mieux fait ?
Oui, en tout cas, il a aucun défaut, ce film. Et il arrive à m'avoir émotionnellement aussi, donc voilà. Mais l'image est très léchée. Ils ont apporté un côté plus sombre au niveau du scénario qu'il n'y a pas dans quasiment aucun autre Star Wars, en fait.
À part ouais, La Revanche des Sith. Qui est sombre aussi, mais...
Ouais, mais d'une autre manière. Mm.
Et puis le rythme aussi de L'Empire contre-attaque, il est impeccable, quoi. C'est vraiment hyper bien monté, hyper bien...
C'est le film avec le meilleur climax, Je suis ton père.
Spoiler alerte.
À partir de quand on peut arrêter on peut considérer qu'il y a prescription et que...
Je pense que là, 50 ans plus tard, ceux qui savent pas que Luke, c'est le fils de Vador... Ça craint quand même. Il mérite de se faire spoiler.
Moi, mon épisode favori, c'est la série dessin animé sur les Ewoks que je regardais en VHS, c'est moi. C'était vraiment super, mais j'ai mis peut-être 15 ans à comprendre que c'était relié au lore de Star Wars. Mais dans mon cœur, ça reste...
Mais est-ce que tu as vu les films sur les Ewoks aussi, en live, avec l'acteur qui joue Wicket, donc l'Ewok principal dans Le Retour du Jedi? Il a deux films en star où il joue un Ewok.
Alors déjà, est-ce qu'on peut parler du nom Wicket? Est-ce que c'est pas un nom un peu
fait blues? Parler de star
ouais, c'est des téléfilms, mais qui existent, qui sont sur Disney+.
Je savais
pas.
En mode
HD, remasterisé et tout.
Je savais pas qu'ils avaient fait un truc spécial Ewok en live. Je sais pas si j'ai très envie de le voir.
C'est quand tu l'as vu gamin, apparemment c'est trop bien. Moi je l'ai jamais vu, mais ça a l'air absolument pas connecté au lore Star Wars, alors que ça se passe sur Endor, avec, donc c'est la planète des Ewoks, avec des Ewoks et tout, mais il y a rien qui apparemment connecte avec la Force ou quoi que ce soit. Ou... l'Empire, rien.
Ok.
Voilà.
Je regarderai. Peut-être que justement, si c'est pas connecté au lore, ça me plaira plus.
Ouais, il y a moyen.
Ok. Maintenant, je veux deux Oscars pour les meilleurs personnages féminins et masculins. J'ai dit personnages. Hein.
Ok.
Je dirais Gandalf.
Gandalf. Et Arwen.
Je dirais Dark Vador. Quand même. Mais bon, personnage, ouais, Dark Vador. Et Princesse Leia. Hein. Enfin, un personnage féminin, il y a moins de choix, du coup.
Ouais, il y en a une.
Il y a la prélogie, un peu. Mais
non, mais dans les anciens, il y a que Leia, en fait.
Oui.
Un personnage féminin. Il y a Mon Mothma, là, la meuf de...
Ouais,
mais bon, elle la voit dans 4 plans. Elle est importante dans l'or, mais dans le film, pas du tout.
Il y a une maman Ewok aussi, dans le 6, dans le fond.
Oui, oui.
Ouais, en fond. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu pauvre en personnage féminin, mais par contre, quel personnage, quoi. Princesse Leia, c'est... Moi, je vote pour Princesse Leia aussi, en personnage féminin, forcément, et Vador aussi.
Et oui, voilà. C'est chiant, mais par contre, meilleur personnage, mais meilleur acteur.
On y vient d'ailleurs. Oscar du meilleur acteur masculin.
Toujours Carrie Fisher, du coup, Princesse Leia. Mais meilleur acteur, moi je dirais Luke, quand même. Parce que...
Dans lequel? Parce que du coup, c'est pas du tout. Enfin, ouais, Luke, justement.
Dans le 5.
Dans le 5 et le 6, c'est pas du tout le même personnage, quoi.
Ouais, ouais.
Moi, ouais, clairement, ça serait Luke du Retour du Jedi, quoi. Plus classe, plus charismatique et tout, justement. Hier, quand on l'a revu, Letty, tu disais que Luke, c'était un quignon de pain sucé.
J'ai dit que c'était qu'il avait le charisme d'une huître.
Ouais, voilà. Ça, c'est, ouais. Ça, c'est grave, ça. Mais ça, c'est parce que tu connaissais pas le Retour du Jedi, tu savais pas encore qu'il allait se pointer en mode cape noire fâché, sabre vert, l'air classe et tout.
Ouais.
Il est classe dans le 6 quand même. Non,
mais au contraire, pour moi, Luke, il a pas à être charismatique. Parce que c'est Han Solo qui est charismatique à côté. Qui est, même si c'est un macho et tout, bah, il est quand même charismatique. Et Luke, dans le 5, il fait son entraînement, il galère, il fait que des mauvaises décisions. C'est pas un il est pas montré comme étant quelqu'un de charismatique.
Bah, je me dis, en fait, aussi, des fois, je m'étais faite cette réflexion sur Harry Potter, notamment, dans les films. C'est que, des fois, ton personnage principal, t'as besoin qu'il soit pas charismatique. Genre, je me demande si c'est pas aussi un truc de, notamment quand tu t'adresses à un jeune public, de faire exprès presque d'avoir un personnage principal qui est un peu fados pour que tout le monde puisse s'identifier, quoi. Parce que
c'est plus humain.
Exactement, c'est genre, au moins tu peux rentrer dans sa peau, il a pas de caractéristiques tellement marquées qu'il te ressemble pas. Genre Tintin, typiquement, Tintin, c'est le plus gros exemple de ça. Il est vide, ce personnage. Il a aucune personnalité. D'ailleurs, les gens préfèrent Haddock en général. D'un coup, ça part en émission sur Tintin, désolé. Mais il a ce truc où quand t'es gamin, ben, tu es Tintin, tu te transposes dans son esprit, quoi.
D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de suites sur des personnages charismatiques secondaires qui fonctionnent pas. Parce que du coup, le charisme pour le charisme, c'est pas, ça suffit pas en fait pour monter une histoire.
Complètement. Puis surtout que c'est des personnages haut en couleur qui peuvent être gavants au bout d'un moment. Mais tu fais un film sur Jack Sparrow par exemple, où c'est lui, que lui en star pendant 2 heures. tu en as marre au bout d'un moment de Jack Sparrow, tu vois. Exemple.
Oscar du meilleur réalisateur.
Irving Kershner, du coup.
Kershner. Le réalisateur de l'Empire contre-attaque, du coup, du 5.
Ouais, vous êtes vraiment d'accord, quoi. C'est frustrant.
Il y a que le coup au retour du Jedi, Empire contre-attaque, au niveau de la préférence. Mais bon.
Oscar de la meilleure chanson originale.
Enfin, musique, quoi. Ouais.
Pour moi, ce serait le thème de la Force. Clairement, genre, vu que de toute façon, c'est que des thèmes de John Williams. Mon préféré, ce serait le thème de la Force qui est vraiment mystique.
C'est la musique de quand Luke regarde les deux soleils.
Ouais, voilà. Catherine. Ça, pendant l'entraînement avec Yoda. Elle est tout le temps, en fait. Ce thème, il revient tout le temps, un motif.
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon dont ils ont réarrangé le leitmotiv de Dark Vador sur la scène où il meurt. Parce que c'est un thème qui est hyper épique, qui est hyper martial, je trouve. Et d'ailleurs, que t'aimes ou que t'aimes pas Star Wars, quand t'entends le thème de Dark Vador, tu le chantes à tue-tête, quoi. Et du coup, j'étais super agréablement impressionnée, quoi, de la façon dont ils sont arrivés à rendre dramatique ce thème-là dans les derniers moments de la vie de Dark Vador.
Je suis content que tu aies capté ça, parce que c'est une scène que j'adore, je crois, ma préférée d'ailleurs de Star Wars, je pense, mais c'est trop classe, ce moment, le thème de Vador à la harpe, en mode hyper calme, hyper dramatique et tout,
c'est beau, genre.
Ouais, d'ailleurs, c'est un truc qui m'a vachement... qui m'a beaucoup marqué. En fait, tu vois que c'est un film, je trouve un peu daté sur ce truc-là, c'est... en fait, j'ai trouvé que c'était très difficile à axer le côté faire revenir de la bonté dans Dark Vador sur le sixième épisode, notamment que faut se souvenir quand même pour les gens qui découvrent Star Wars aujourd'hui que il y avait pas la prélogie en fait à ce moment-là. Donc pendant deux films, on a eu cette espèce d'archétype de méchant hyper maléfique, on dirait un méchant Disney à l'ancienne, tu sais, un méchant qui est démoniaque par essence, et d'un coup d'arriver à remettre un petit peu de l'humanité là-dedans. Et en fait, c'est là où je trouve que le film, tu sens qu'il est un peu daté en termes de narration, parce que je sens que si tu voulais refaire cette narration-là aujourd'hui, il y aurait eu beaucoup plus de besoin de dialogue, d'amener ce truc-là, tu vois.
Ouais, c'est vrai que c'est amené un peu bizarrement, mais peut-être que ça a un rapport avec les réécritures du Retour de Jedi et le fait qu'il l'ait simplifié de ouf. Après, dans le principe, je trouve ça hyper classe, ce concept de... vaincre le grand méchant, le but c'est de le faire juste revenir du bon côté, pas de le flinguer, genre. Et c'est assez rare. En vrai, il y a peu de films où c'est ça l'enjeu, quoi.
D'ailleurs, question pro, vu que tu nous embarques là-dedans, c'est quoi vos planètes préférées, enfin votre planète préférée? Parce que moi, les deux seules que je connais, c'est Tatooine et Naboo, parce que j'ai des potes qui ont adopté des chatons et qui les ont appelés Tatooine et Naboo.
C'est très cute.
Moi, je dirais. Là, comme ça, je pense à Coruscant, qui est la planète ville qu'on voit du coup pour la première fois dans l'épisode 2, l'attaque des clones.
Non, on la voit dans la menace fantôme aussi, Coruscant, puisqu'on voit le temple Jedi et tout, mais elle a pas exactement le même design, mais...
Mais en tout cas, c'était, je me souviens, à l'époque de l'épisode 2, c'est à ce moment-là que... En gros, c'est la première fois que tu voyais une ville futuriste dans Star Wars, alors que c'est quand même le truc de science-fiction. Donc tout le monde avait envie de voir ça, en fait. Et je trouve qu'ils nous ont très bien servi avec l'introduction de l'attaque des clones, donc l'épisode 2, avec une course-poursuite dans la ville et tout.
Elle est ouf,
ça. Je me souviens, on avait vu ça, on était jeunes quand on avait vu ça au cinéma. Même si le 2 est un film bourré de défauts, mais en tout cas, ça nous avait bien éclaté la bouche.
Le côté film néo-noir, genre film noir enquête et tout, dans les bas-fonds de Coruscant, dans la rue, eux, ils sont en mode enquête, ils rentrent dans le bar, ils poursuivent, même au niveau des plans, les travelling, les inserts de flingues et ouais, tout cachés sous la table, noir, ouais. Ça fait film noir de ouf, avec les néons et tout.
D'ailleurs, sur les décors des planètes, moi, il y a quelque chose que j'aimerais bien avoir votre avis. Alors déjà, il y a une première chose, c'est de mémoire, parce que du coup, j'ai vu les 6 d'un coup, quand j'avais 18 ans, et là, j'ai revu hier le 5 et le 6 avec vous. Mais j'ai l'impression quand même que dans la trilogie initiale, il y a eu vraiment un effort qui a été fait pour, s'éloigner de l'image terrienne d'une planète. Du coup, on va avoir par exemple des planètes qui sont des vues sur des planètes qui sont presque que de la ville, quels que soient les designs des villes. Et presque, en fait, il y a presque une sensation de... On évite pendant la première trilogie d'avoir trop d'images avec des forêts, de la verdure, pour vraiment ancrer le récit dans les planètes différentes. Et ça, c'est quelque chose qui s'est un peu plus perdu avec les décennies qui ont suivi, notamment parce que je trouve que... c'est le deuxième truc, c'est que les trucs de fantasy et de science-fiction, de planètes, d'aliens et tout, j'ai l'impression que dans le reste de la cinématographie, on va plutôt avoir tendance à trouver des décors qui font très naturel, on va vouloir montrer le côté alien par des plantes, tu vois, parce qu'aussi, maintenant, au niveau de la technologie, on peut créer des plantes hyper bizarres. Et j'ai l'impression que, bah, tu vois, le 1, 2, 3 dans Star Wars est beaucoup plus moderne et du coup a beaucoup plus de vues sur des planètes verdoyantes, et que dans la 4, 5, 6, il y a beaucoup plus de planètes villes, tu vois, au niveau des décors.
Dans le 4, 5, 6, il y a peu de villes. Hein. Y a globalement,
bah oui, c'est,
au final, tu vois Tatooine.
Le désert, la planète haute, la planète de glace.
T'es à la planète des Ewoks, donc Endor en mode forêt.
Endor, la forêt.
Il y a Bespin, du coup, la cité des nuages, mais c'est pas vraiment une planète, c'est une station spatiale.
Ce que je veux dire, c'est que tu vois, quand tu vois les Ewoks, tu te dis, ok, ça a pu être tourné en décor naturel dans n'importe quelle forêt américaine ou européenne ou même sud-américaine, tu vois, ça peut être un peu tourné sur tous les continents quasiment. Par contre, quand tu vois des paysages désertiques, il y a un délire où t'es un peu en mode, ok, ils sont allés chercher des décors sur Terre qui font alien. Tu vois, d'ailleurs, il y a un photographe qui fait ça, il se déguise en... Pardon. Il y a un photographe qui fait ça, je sais plus son nom, il se déguise en astronaute. Et il va se prendre en photo dans des décors sur Terre, évidemment, mais qui font très alien, en fait. Et il y a vraiment eu un truc comme ça où, genre, j'ai eu l'impression que... Tu vois les scènes comme la grosse bataille avec les Ewoks, j'ai l'impression qu'ils sont un peu frileux de planter leur décor dans un truc qui fait très terrien, tu vois, genre même les déserts, les architectures que tu trouves, même dans des endroits un peu naturels, ils font très très aliens, alors que la forêt des Ewoks, t'es en mode, vas-y, on va assis en la cascade à côté, je te la refais
ouais,
la scène, quoi,
tu vois.
Je
pense que c'est une question de moyens, clairement, parce que du coup, ils pouvaient pas non plus faire tout ce qu'ils voulaient. D'ailleurs, à la base, le climax final du Retour du Jedi devait se passer sur Coruscant. Ça s'appelait pas Coruscant à l'époque, ça avait un autre nom, je sais plus lequel, mais ça devait être dans une énorme ville, le centre de la galaxie, là où il y a l'empereur et tout le bordel, en mode ils se battent là, et finalement ça a été supprimé au profit de Endor, du coup, parce que c'était plus facile à tourner, tout simplement. Ils en avaient pas les moyens à l'époque, et avec le numérique, bah du coup ils se sont juste régalés, en fait, ils se sont lâchés. C'est là qu'ils ont envoyé du Coruscant, des énormes villes, des planètes concept encore plus ouf, où t'as justement, comme tu disais tout à l'heure, des plantes aliens, plus de créatures. C'est hier tu faisais sur y a beaucoup de lézards sur Dagobah. Ils ont mis des lézards et des serpents qui existent sur Terre, mais là dans la prélogie ça envoie des créatures inventées vraiment, qu'ils ont créées pour le film, quoi.
Alors attends, on va faire une pause pour que Merlin puisse gratter ses câbles tranquillement. Voilà, hop, bah oui, je me doute que tu as besoin de faire ça, il n'y a pas de problème, mon amour. On va basculer sur les jeux.
Allez.
Parce qu'en fait, je sais pas exactement...
On est à combien de temps ?
Bah, en fait, je crois qu'à 15h38, je me suis dit, ok, ça fait déjà 5 ou 10 minutes qu'on a parlé, en comptant les phases de blanc, les phases de coupe, les machins, du coup, je me suis dit, je vais aller au moins jusqu'à 16h38, et comme ça, au moins, je sais que j'ai à peu près... une heure 10, j'aime bien avoir 1h10 de montage, comme ça je peux couper comme je veux. Donc là il est 16h20, donc en...
Ouais, peut-être des trucs qu'on peut enlever, hein, voilà.
Oui, voilà, on va voir, mais du coup je me dis je finis sur les deux jeux qui vont probablement nous prendre plus de 10 minutes, et comme ça je vais couper sur les jeux, parce qu'en fait on s'en fout si dans les jeux j'enlève un des Oscars, ouais. Un des trucs, tu vois, genre voilà.
Yes.
T'es ready? Tout le monde est ready? Ouais, ah, attends, Merlin, il gratte. He's gratting, scratching all around.
C'est bon.
C'est bon ? Ok. Ok, les gars. Bon, comme je l'ai dit en début d'émission, moi, je suis pas du tout une fan de Star Wars. Je connais mal. Par contre, j'ai jamais trop apprécié regarder les Star Wars, mais j'ai toujours adoré écouter les copains fans de Star Wars discuter entre eux de théories, parce que c'est vraiment un truc qui pour moi fait amplement partie du succès de Star Wars. C'est aussi comment les fans le font vivre, et ça fait partie des grandes sagas où tu trouves à l'infini des gens qui vont théoriser des choses. Donc du coup, pour me mettre un peu dans le bain, j'ai trouvé un article qui référence des théories confirmées et non confirmées des fans. Donc je vous propose de vous en lire quelques-unes, et vous allez essayer de trouver à chaque fois si c'est des théories qui ont été confirmées par les auteurs ou qui n'ont pas été confirmées. Est-ce que vous
allez,
êtes prêts?
C'est parti.
Alors, Dark Maul est toujours vivant.
Eh ouais.
Bah, pour moi, non. Il est mort.
Ah.
Parce que j'ai jamais regardé les séries animées, là, Star Wars... Clone Wars ou dans ces séries qui sont canon.
C'est canon.
Ouais, c'est canon. On apprend que, en fait, du coup, il n'est pas mort. Dark Maul, il se fait récupérer, bien qu'il ait été coupé en deux au niveau de la taille. Il se fait récupérer et poser des jambes de robot.
Et une bite de robot aussi.
Et un sexe de robot.
Parce qu'il est coupé quand même très haut, en
ouais,
vrai.
Ouais.
Au niveau vraiment du bassin, quoi.
Non, mais il avait fait vœu de façon...
Ok, bon, ça va.
Et du coup, il a ses jambes robot, tout ça. Mais ça, c'est dans du coup, la série Clone Wars, je crois. Et je m'en fous de ces séries. Donc pour moi, je vois le film. À la fin, il se fait couper en deux et il est mort, tu vois. C'est comme l'empereur Palpatine. Palpatine, il meurt à la fin du Retour du Jedi. Il tombe dans le trou, il meurt. Pour moi, la post-logie n'existe pas. Il revient et Rey, c'est sa fille, nanana.
On l'a soigneusement évité, d'ailleurs. On parle de Star Wars depuis tout à l'heure. On n'a vraiment pas évoqué. Pas. C'est le meilleur des irrespects, d'ailleurs, possible. C'est de juste pas en parler.
Ouais, donc j'arrête.
Sinon ça va être...
Du coup, Dark Maul, pour moi, il est mort. Hein. Je préfère me dire ça, même si en fait, il est pas mort.
Et d'ailleurs, dans l'univers canon, pas que de la série animée, mais dans les films aussi, il est présent, techniquement, dans le film Solo.
Ah oui, c'est vrai, mais j'ai pas vu jusqu'à la fin, du coup.
Mais c'est très bizarre, d'ailleurs, c'est le caméo le plus bizarre et incongru qu'ils auraient pu mettre dans Solo, puisque Han Solo a des ennemis jurés, genre Boba Fett ou Jabba, qui étaient parfaits à intégrer dans le film. Mais ils ont choisi d'intégrer Dark Maul, qui n'a absolument rien à voir, qui fait presque anachronique avec un personnage comme Han Solo.
C'est absurde.
Mais il y est dans le film.
Donc, ouais, ça termine par lui.
On le voit avec les jambes robotiques et tout.
Alors, selon Melty.fr, Dark Maul est bien toujours vivant. C'est une théorie qui a été confirmée. Je cite, les petits malins ayant supposé que Dark Maul avait survécu à son combat contre Obi-Wan Kenobi dans la menace fantôme avaient vu juste. Dark Sidious avait octroyé à ce méchant la tâche de mettre la main sur Padmé Amidala après sa fuite lors du conflit entre Naboo et la Fédération du Commerce. Sauvé par King Jong-jin et son padawan...
King Jong-jin.
Pourquoi ça se prononce pas comme ça?
C'est Qui-Gon-jin.
Qui-Gon-jin.
King Jong-jin, ça fait un peu...
King Jong-un.
Dictateur.
Ouais. Bah écoute, j'ai cru que c'était ça la ref, hein. Qui-Gon-jin. C'est bon. Et son padawan, la jeune femme s'était réfugiée sur la planète Tatooine. Là-bas, le vilain échouait une première fois à accomplir sa mission. Plus tard, Palpatine lui offrait alors une nouvelle chance de le satisfaire en l'envoyant sur Naboo, où l'affrontait alors en duel le duo de Jedi dont il était l'aîné. Il n'aura pas fallu davantage à Obi-Wan Kenobi pour lui porter un coup fatal, le coupant en deux au niveau de la taille avec son sabre laser. Dark Maul disparaissait alors en tombant dans ce puits, ce qui aurait dû marquer la fin de son histoire. Donc c'était bien confirmé. Théorie numéro 2. Padmé Amidala n'a jamais été amoureuse d'Anakin Skywalker.
Alors, c'est marrant parce que j'y avais jamais pensé.
Non, moi non plus, c'est vrai.
C'est marrant de penser à ça. Ça voudrait dire que ça rendrait encore plus débile à Anakin que ce qu'il l'est déjà. Mm. C'est un des défauts de la prélogie. Hein,
Ouais, c'est clairement. Comment le personnage d'Anakin est écrit et un peu interprété aussi quand même, parce que On va dire que Hayden Christensen et Natalie Portman dans L'Attaque des Clones, c'est pas le sommet du charisme. Mais en soi, ils peuvent être de bons acteurs, mais c'est...
Mais ceci dit, ils nous ont, comment dire, ça nous a permis d'avoir de très bons mèmes grâce à eux.
C'est ça. C'est à ça que ça sert, je pense, leur histoire d'amour dans ce film. C'est pas...
Ouais, c'est...
En tout cas, quand on voit en comparaison une histoire d'amour qui n'en déplaise à certains, est aussi cool que Han Solo et Leia, puisqu'il y a ce côté on se cherche, et puis c'est quand même fun, c'est bien écrit, et il y a de la tendresse et tout entre les deux. Là, clairement, Anakin Padmé, ça fonctionne tellement pas à l'écran qu'on pourrait penser qu'ils sont pas réellement amoureux.
Et alors moi, j'aime beaucoup cette théorie. Donc évidemment, ça sous-entend que Anakin en fait aurait utilisé la Force pour séduire Padmé Amidala pour des raisons de pouvoir, pour des raisons autres en fait que l'amour. Mais j'aime beaucoup cette théorie. Jude, d'ailleurs, tu nous as dit si tu pensais qu'elle était confirmée ou non confirmée.
Non, moi je pense pas que ce soit confirmé. Je pense pas que je crois pas cette théorie qui dit qu'on peut, enfin qu'Anakin il peut à ce moment-là il est pas, c'est pas un Sith encore, c'est un Jedi et il peut pas un Jedi il peut pas faire une action comme ça de manipulation sur quelqu'un. Et en plus les Jedi ils font ce truc de manipulation sur des esprits faibles. Et, je pense pas que Padmé ce soit un esprit faible pour se laisser manipuler comme ça.
Ouais, et puis c'est sur un instant particulier, c'est genre ouvre la porte ou laisse-moi passer, mais c'est pas tombe amoureux de moi pendant 10 ans et fais-moi deux enfants, tu vois.
Ouais, ouais. Donc cette théorie, j'y crois pas du tout.
Genre il la manipule chaque jour, il lui fait le truc de la Force comme ça.
En effet, elle a pas été confirmée, mais c'est intéressant parce que du coup, c'est vrai que ta réponse, elle nous donne un peu aussi le côté mécanique de la Force qui, là pour le coup, c'est un autre truc sur lequel je trouve que le film est un peu daté, dans le sens où en fait je trouve qu'aujourd'hui tout ce qui touche au système de magie dans les œuvres, que ce soit heroic fantasy, fantastique, science-fiction, il y a de plus on avance dans le temps, plus c'est les mécanismes de magie sont vraiment expliqués, ouais. Codés, et jusqu'à par exemple un auteur de littérature fantastique qui s'appelle Brandon Sanderson, qui n'est lui-même le dit, je ne suis pas un artiste, sous-entendu, je vais pas faire des styles d'écriture hyper stylés et tout. Par contre, c'est un ingénieur. Donc, il construit son récit et son mécanisme de magie comme une science. Donc, en fait, il va t'expliquer pourquoi et comment, en fait, tu peux faire certaines actions avec ta magie, mais pas d'autres. Et c'est vrai que c'est un truc qui, moi, m'a un peu manqué dans Star Wars, et tu sens que c'est un film qui date plutôt des années 80 que des années 2000, 2010 et 2020, où, en fait, ils expliquent pas tant que ça comment ça fonctionne la force. Donc, je trouve que c'est intéressant.
Ouais, c'est une sorte de télékinésie, un peu.
Ouais, il y a de ça, mais c'est vrai. C'est absolument vrai ce que tu dis, mais c'est quelque chose qu'ils ont justement développé dans les années de 99 à 2004, je crois, pour le 1, 2, 3, du coup, la prélogie, où là, ils ont instauré vraiment un lore, une méthode, tu vois, la force, ça s'apprend très jeune, dans un temple, avec des maîtres Jedi, il y a une codification et une hiérarchie, t'as le Haut Conseil des Jedi, vraiment...
Les élèves, c'est les Padawan.
Ouais, c'est ça, genre là, ils ont créé vraiment un lore qui est carré, qui bouge plus. Ensuite, normalement, si on exclut la post-logie de grosse merde, c'est juste...
Enfin, ouais, il y a déjà, lors de la prélogie, des gens qui ont râlé par rapport à la force sur le taux de midi-chloriens oui. Dans ton sang. Et c'est ça qui définit si t'as la force ou pas, c'est ton taux de midi-chloriens.
Ce que j'aime bien aussi dans...
C'est un peu sale, ça. Ça fait un côté, genre, t'es prédestiné à la grandeur dans ton ADN. C'est pas un truc que tu peux travailler. C'est si t'as un taux de midi-chloriens élevé, t'y es badass.
Et sinon, c'est ça le problème dans ce type de...
Bah, c'est un après, peu bof, ouais. Moi, ce que j'aime bien dans la théorie que Anakin Skywalker aurait forcé l'amour d'Amidala par la force... Enfin, oui, par... Oui, excusez-moi. C'est que, en fait, ça, je trouve que... Bah, moi, je suis une très, très grande fan d'Harry Potter qui a évidemment été calqué... Le récit a été calqué pour moi sur Star Wars et Tolkien par bien des aspects. Et en fait, dans Harry Potter, ce truc-là est hyper important chez les parents de Voldemort parce qu'on dit que, en fait, Voldemort ne peut qu'être... Le méchant de l'histoire ne peut être que méchant parce que justement il est né d'un viol en fait, d'un viol magique, puisque sa mère a, a fait consommer du filtre d'amour à son père pendant des décennies pour pouvoir, pour qu'elle puisse créer sa, sa famille. Et d'ailleurs, à partir du moment où elle a arrêté, le mec s'est barré immédiatement parce qu'il a jamais été amoureux d'elle. Et donc c'est un truc dans Harry Potter. Ouais, en fait, la mère est tombée amoureuse d'un moldu qui voulait pas de lui, qui était un beau gosse ultime. Et eux, c'était un peu une famille de grands sorciers qui étaient sur le déclin, quoi. Et du coup, elle lui a fait consommer des filtres d'amour pendant longtemps, elle a fait son enfant avec, et en fait, à force d'avoir de vivre des années avec lui, elle s'est dit, oui, il est amoureux de moi. Donc elle a arrêté de lui donner des filtres d'amour, et en fait, à la seconde où il était plus sous influence de cette drogue magique, il s'est barré, en fait, tu vois. Et donc, il y a tout un truc sur... c'est pour ça, en fait, que Harry ne peut pas devenir mauvais et que Voldemort ne peut pas devenir bon, c'est parce qu'en fait Harry est né dans l'amour, il a été conçu dans l'amour, a été a très vite retrouvé des amis qui étaient bienveillants avec eux, avec lui. Là où Voldemort est né du fruit d'un viol, est né n'a jamais été aimé correctement. Donc c'est pour ça, et c'est là où c'est intéressant de dire effectivement que en fait Anakin n'a pas utilisé la force, parce que c'est pour moi c'est cet élément là qui fait que dans le sixième, il peut avoir les cinq dernières minutes de sa vie où il se rend compte qu'en fait la meilleure chose à faire dans sa vie, c'est d'être un père pour son fils, quoi. Et c'est tout. Mais j'aimais, tu vois, sur le côté, est-ce que c'est un méchant ou pas par absolu, c'est, je trouve que dans le récit, c'est important en fait qu'il tombe amoureux avant de devenir Dumbledore, avant de devenir Dark Vador.
Avant de devenir Wolverine. Mais du coup, il y a, en fait, c'est juste que on dirait qu'il y a une ellipse dans Star Wars, dans la prélogie, sur le moment où elle tombe amoureuse de lui, en fait. On dirait que c'est pas montré, ou alors très mal montré. Lui, on comprend pourquoi il tombe amoureux d'elle. C'est son crush, il est gamin, il la voit, c'est la princesse, elle est belle et tout, machin. Et voilà, Sauf que elle le traite un peu comme un gamin, elle le met dans la friend zone un petit peu, elle lui dit non, Anakin, non, avec son corsage en cuir, avec les seins qui sortent, on ne doit pas, et tout, ça serait mal. Et ensuite, d'un coup, c'est ok. Genre, très bizarre, entre le 2 et le 3, à peu près. Donc, en fait, ce moment-là, on le voit pas, pour moi, dans Star Wars.
C'est juste nul, un peu. En fait, c'est juste un mal écrit.
Ils s'embrassent dans l'arène, là, machin, et ensuite, ils se marient à la fin du 2. Voilà. Et à partir du 3, on les revoit.
Il y a des gros problèmes dans la prélogie, c'est juste que la post-logie nous a fait... réévaluer la prélogie qui est quand même sympa, mais qui a des erreurs, des faiblesses de scénario.
Clairement, il y a un défaut majeur par film de la prélogie pour moi, c'est Jar Jar dans le premier, l'histoire d'amour entre Anakin et Padmé dans le 2, et le passage de Anakin à Vador dans le 3, qui est.
Le truc le plus important de la saga.
Le truc le plus important sur lequel on aurait pu baser le film entier. Il aurait pu avoir un 2.5 ou un 3.5 qui parle que de ça. Et là, le basculement se fait en même pas 20 minutes. Et littéralement dans une scène où d'un coup, il se fait appeler Vador. C'est un peu trop rapide pour moi, pas assez bien traité. Pas à la hauteur du méchant que représente Vador, qui est le plus iconique de tous les méchants de l'histoire, quoi.
Troisième théorie, un allié de la résistance a laissé s'échapper R2-D2 et C3PO.
Mais là, à quel moment en fait? Parce que. Un allié de la résistance. Ah, mais oui, ok. Parce que R2 et C3PO se font capturer sur le vaisseau au début du 4. On les voit, il y a l'Empire et tout machin. Et ils se barrent en navette de survie. En capsule de survie, et t'as un mec de l'Empire qui voit la capsule et qui fait non, c'est bon, il y a aucune forme de vie à bord. Parce que tu te dis, mes frères, ok, il y a aucune forme de vie à bord, mais il peut y avoir des droïdes. Vous connaissez les droïdes, il y en a de partout autour de vous dans cet univers, avec genre les plans de l'étoile noire qui viennent de nous être volés, tu vois.
Je comprends pas la question en fait.
La question, c'est 3PO et R2-D2 au début de l'épisode 4. Ils peuvent se barrer tranquille du vaisseau alors que l'Empire a pris possession du vaisseau et ils se cassent, ils s'éjectent en capsule de survie pour aller sur Tatooine, c'est là qu'ils atterrissent. Et on les laisse partir. C'est intéressant de se dire qu'il y a un allié de la résistance à ce moment-là qui dit non, c'est bon, laissez-les partir, il n'y a pas d'humain, les détecteurs n'ont pas capté une présence humaine dans les capsules, alors qu'ils viennent de se faire littéralement voler les plans de l'étoile noire et qu'il y a des il peut très bien avoir des droïdes dans un vaisseau qui transportent les plans. Et ça m'a toujours choqué d'ailleurs, ce passage, je me suis toujours dit, putain, mais il le voit partir et c'est ok.
Ah, moi, ça m'avait jamais choqué.
Et après, il les cherche en plus, les droïdes. Il cherche les droïdes qui ont avec les plans. La scène d'après,
ils sont sur Tatooine en train de chercher.
C'est une théorie qui n'a pas été confirmée, mais j'aimerais beaucoup que ce soit vrai, parce que c'est chouette aussi, en fait, quand tu fais un univers dictatorial aussi étendu, évidemment qu'il y a des résistants dans tous les systèmes dictatoriaux, quoi. Donc c'est intéressant aussi de voir les résistants qui font des toutes petites actions comme ça, qui font pas partie de milices armées, mais qui font le choix de pas cliquer sur un bouton quand ils devraient le faire, quoi.
Exactement, mais ça d'ailleurs c'est beaucoup dans Rogue One, cette thématique là le Mads Mikkelsen dedans joue un scientifique de l'Empire très important qui est à la base même de la création de l'Étoile Noire. Et il place volontairement une faille dans la station spatiale pour qu'elle puisse être détruite. C'est lui qui fait en sorte qu'il y ait cette faille et de transmettre les plans, etc. à sa fille. Ce qui, en même temps, règle un problème de vraisemblance de la trilogie originale Star Wars, qui est que c'est facile de détruire l'étoile noire, entre guillemets. Pourquoi il y a un chemin dans lequel tu peux rentrer et si tu tires dans ce trou, il y a tout qui explose?
Tu dis, en soi, c'est bizarre.
Défaut de fabrication.
Ils y ont pensé.
Théorie suivante, Han Solo serait un Jedi. Est un Jedi.
Non. Han Solo, c'est pas un Jedi du tout.
Il n'y a pas une meilleure réponse à ça que non. C'est bien pas un Jedi.
La théorie, effectivement, n'est pas confirmée. Et je trouve que ça devrait pas être un Jedi. C'est cool de voir qu'il y a des héros qui ont pas besoin de la force pour.
Il le dit en plus, il dit tout ça, c'est des trucs nazes, c'est du flan. Un truc, ça vaut pas mon pistolet laser. Genre vraiment, il aime pas quoi.
Théorie suivante, Dark Vador n'est pas le vrai père de Luke Skywalker, mais il est le fils d'Obi-Wan Kenobi.
C'est nimpe.
Dark Vador est le fils d'Obi-Wan Kenobi.
Non, Luke, ça serait pas le fils de Vador, ce serait le fils d'Obi-Wan.
Ouais, ça serait absurde.
Après, Padmé et Obi-Wan, ils sont proches un peu, hein, dans la Revanche des Sith.
Ouais.
Mais bon.
Peut-être.
On va pas commencer à avoir des soupçons. Mais...
Cette théorie n'est pas confirmée. Théorie suivante, les Ewoks mangent des humains.
Moi, ouais, je suis pour. Je suis pour à 100%. Cette théorie, j'aime beaucoup.
Bah, on sait pas comment ils se nourrissent. Hein. Du coup, potentiellement...
Bah, il y a quand même une scène dans le 6 où t'as C-3PO qui est pris pour un dieu par les Ewoks et qui, au bout d'un moment, traduit et dit oui, en fait, ils vont servir un banquet en mon honneur. Ils vont vous servir en tant que plat de résistance. Je crois que c'est ça la réplique. Ouais. En tant que plat de résistance de...
D'un banquet en mon honneur.
Voilà. Et donc, c'est une théorie qui est effectivement confirmée. Les Ewoks mangent des humains. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi est-ce qu'ils ont une gueule aussi creepy. Parce que franchement, même pour, enfin, en 1983, on était totalement capable de faire des peluches très mignonnes, quoi. Tu vois.
C'est vrai qu'ils sont un peu creepy, ouais.
Ouais, clairement. Et d'ailleurs, il y a plusieurs autres trucs. Il y a le costume qu'ils donnent à Leia à un moment quand ils recueillent la compagnie sur leur planète, dans leur village. Leia, d'un coup, elle arrive avec un nouveau costume qui est parfaitement à sa taille. Ils viennent pas de lui coudre un costume en deux secondes. Ils avaient un comme ça dans leurs affaires, un costume d'une meuf qu'ils ont dû manger, certainement. Et à la toute fin, quand ils jouent de la musique, ils jouent sur des casques de Stormtroopers. Ils ont des baguettes comme ça, et ils font de la batterie sur les casques vides.
Oui.
Tu te dis, ok, ils se sont débarrassés des corps, ils ont gardé les armures de Stormtroopers, ils ont fait quoi des corps? Ils les ont mangés, genre, clairement.
Et puis d'ailleurs, quand tu vois dans le 6, la première interaction entre Leia et un Ewok, bah, c'est Wicket, je crois, qui débarque. Il a vraiment le comportement qu'un humain pourrait avoir avec une vache. C'est-à-dire qu'à la fois, quand on en rencontre dans la nature, on fait attention, parce que c'est quand même des animaux qui sont plus hauts que nous et qui peuvent en soi nous écraser, nous faire du mal. Mais d'un autre côté, on est très à l'aise à s'approcher d'elles, à être assise à côté d'elles, parce que c'est, on les considère comme des animaux d'élevage complètement passifs. Mmh. Et on sait que quelque part, même si c'est nous les plus petits, tant qu'on les agresse pas, c'est nous en fait qui les le prédateur. Par contre, si on commence à s'agiter devant elles, effectivement, elles ont le pouvoir de s'écraser. Mais c'est vrai que comme j'avais lu, j'avais préparé ces théories là avant de regarder le 4 et le 6 hier, quand j'ai vu Léa, j'étais en mode qui est toute tranquille avec lui et tout, et qui est en mode ah vas-y viens petite peluche t'asseoir à côté de moi, je suis là en mode frérot il te prend pour une vache, genre, elle, il va te faire rôtir.
Elle est mignonne, elle lui propose un sneakers en plus, genre elle est là en mode tiens tu veux un sneakers, et lui en plus il refuse
parce qu'il veut elle en fait.
Oui.
Non je veux pas ton sneakers, parce que par contre ta cuisse là.
Non mais c'est ça, je la trouve très, en fait c'est ça qui m'a étonnée, c'est que pour, enfin après c'est vrai qu'elle peut avoir connaissance, c'est une chef d'état, elle doit probablement avoir connaissance des différentes créatures intelligentes qu'il y a sur les différentes planètes, mais je trouve que pour quelqu'un qui vit dans un univers où il y a autant de créatures différentes, moi j'aurais tendance à me dire faut faire attention parce que t'as des créatures qui sont super mignonnes et super petites qui sont super vénéneuses. Et puis, t'as des créatures qui font 4 mètres de large, mais qui sont super délicates,
bah ouais, genre,
tu vois.
Chewbacca, qui est hyper doux, hyper gentil, et puis...
Donc ça m'étonne, tu vois. Je me dis, bon, ok, elle doit savoir que c'est quoi les Ewoks, tu vois, mais je me dis, elle est hyper détendue quand même, tu vois. Moi,
peut-être
je serais pas
détendue. Parce que c'est un peu le trou du cul de la galaxie, Endor, hein. C'est vraiment un truc que je pense pas qu'elle connaisse, en vrai, quand ils se pointent sur...
Bah, d'autant plus. C'est-à-dire que moi, tu me projectes sur une planète étrangère. Déjà, tu me mets en Amazonie, je vais avoir peur de n'importe quel insecte, parce que justement, je les connais pas, donc je la trouve très friendly, tu vois, alors que je suis en mode, bon, c'est quand même une créature très clairement intelligente qui a des armes, tu vois,
ouais.
Genre...
Non, c'est vrai.
Mais c'est... Et puis de toute façon, cette théorie, pour moi, elle est valide juste parce que c'est excellent de s'imaginer des fucking Ewoks mignons en train de bouffer des Stormtroopers, c'est le pire truc de bad trip, de s'imaginer le Stormtrooper qui se fait bouffer, genre en mode, ah, tu vois ces trucs hyper mignons qui t'attaquent. T'as le seum qui te mange, genre t'as pas envie que de te faire manger par ça, genre.
Théorie suivante, Han Solo et Leia Organa vivent ensemble.
Alors ça, pareil, ça, on peut la couper complètement, ce truc.
Ok, très bien. Kylo Ren tente de ressusciter son grand-père.
C'est qui Kylo Ren? C'est quoi ça, Kylo Ren?
Son grand-père?
Non, son grand-père, c'est... Bon, Kylo Ren, on fait genre on connaît pas, parce que c'est un personnage de... La post-logie, mais son grand-père, c'est Dark Vador, du coup. Vu que c'est le fils de Leia et Han Solo.
Oui.
Voilà. Mais non.
Effectivement, cette théorie n'est pas confirmée. Vous l'avez bien senti. Quand j'ai préparé l'émission, je suis allée chercher un quiz difficile. J'ai tapé quiz difficile Star Wars. Je pense que vous allez être un peu déçus parce que vous avez l'air beaucoup trop pro pour la difficulté de ce quiz, mais on va tester vos connaissances sur Star Wars. Première question, combien de films Star Wars ont été réalisés par George Lucas? Un film, deux films, quatre films, six films?
Quatre.
C'est tout à fait exact, Thierry.
L'épisode 4, l'épisode 1, 2 et 3.
Oui, bravo. Il a effectivement fait 1, 2, 3 et 4, les films qui ont été réalisés par George Lucas. Deuxième question, quel nom porte le vaisseau spatial du contrebandier Han Solo? Est-ce que c'est le Falcon Millennium, l'anneau solaire, l'intergalactique ou Entreprise?
Entreprise, ah ouais. c'est un Star Trek.
Mais attends, mais là, c'est quiz difficile Star Wars pour humain ou pour opossum? Parce que du coup, genre, le Faucon Millennium.
Ouais, là, j'avoue que c'est une question facile.
Ah bah, attends, tu dis que c'est facile, mais dans ce cas-là, réponds et dis-moi, c'était quoi le nom en version française de... Déjà, c'est quoi le nom du vaisseau, si c'est si facile que ça?
Le Faucon Millennium.
Voilà, et maintenant, si c'est trop facile, est-ce que tu peux me donner la version française dans le premier épisode produit?
Tout à fait, tout à fait. C'est le Millennium Condor.
Absolument, qu'est-ce que tu préfères?
Faucon Millennium. Mineke Millennium Condor. Des malades mentaux. Les gars, ils ont fait des modifs de doublage. Ils se sont permis de modifier le lore des noms de personnages et de vaisseaux et de planètes, mais au calme. Genre... Chewbacca qui s'appelle Chic Taba, Han Solo qui s'appelle Yann, d'un coup le mec est breton, le Millennium Condor au lieu de Faucon, la Guerre Noire au lieu de Guerre des Clones, plein de trucs. Et bon,
c'est la Guerre des Étoiles.
C'est vrai.
La Guerre des Étoiles, le titre même. Ouais, c'est vrai.
Question numéro 3. Sur quelle planète vit Anakin avant de partir rejoindre les Jedi ? Est-ce que c'est Dagobah, et non Dagobert, Tatooine, Naboo ou Mustafar, et non Mustapha ?
Ouais, question facile, Tatooine.
Ouais, c'est...
Comme Luke.
Située dans la bordure extérieure, Tatooine, cette planète désertique est le refuge le plus vil des plus vils brigands de la galaxie. Effectivement, c'était Tatooine. Question 4. Sur quelle planète Luke est-il parti pour apprendre à devenir un véritable Jedi ? Est-ce que c'est Utapo ? Est-ce que c'est Naboo ? Dagobah ? Ou Malas Tare ?
C'est Dagobah. Mais d'ailleurs, tu n'es pas obligé de dire les choix multiples. C'est déjà trop facile. Donc, si en plus on a déjà la réponse.
Ok, d'accord.
Dagobah, la planète de Yoda.
C'est ça, la planète marécageuse sur laquelle on rencontre Yoda, qui était parti en exil du coup.
Mais c'est pas la planète de Yoda. Mais...
Ouais, il possède pas sa propre planète. Ouais. Dans le game, mais pas à ce point-là.
Contre qui Han Solo remporte-t-il le Faucon Millennium lors d'une partie de Sabacc ?
Alors, c'est une bonne question, on peut dire.
Si t'as pas vu Solo, normalement, tu sais pas. Ah non,
bah si, tu le sais, dans l'Empire contre-attaque, c'est Lando Calrissian, en fait. Il a perdu. Lando a perdu le Faucon Millennium à cette partie contre Han Solo.
Qu'on voit dans le film Solo, du coup. On voit le moment où Han Solo gagne le Faucon Millennium. Oui, c'est assez cool, d'ailleurs.
Absolument, c'est une question, c'est une réponse valide. Quel célèbre chasseur de primes a été engagé par Dark Vador pour attaquer Han Solo ?
Il y en a plusieurs.
Voilà. Non, il n'y en a qu'un.
Alors, techniquement, il y en a plusieurs, en fait, parce que quand il lance l'ordre, l'appel au meurtre, il y a plusieurs personnes dans la pièce à ce moment-là, dont Boba Fett... Le chasseur de primes qui va réussir à avoir Han Solo, mais...
Il y en a 5 autres dans la pièce.
Il y en a 5 autres, ouais.
C'est en effet Boba Fett qui est le chasseur de primes engagé par Dark Vador pour traquer Solo.
Il y a aussi Dengar, Zukus, T-85 et bien évidemment... Attends, comment il s'appelle l'autre aussi ? Ah, non, je l'ai pas.
Ben sérieux, tu connais les noms de...
Je connais les noms des autres chasseurs de primes.
Je suis pas du même niveau que toi.
Qui fait...
C'est quand tu es fan de figurines de Star Wars, après tu connais les noms de chaque perso. C'est... Voilà.
Qui fait tomber le chasseur de primes Boba Fett dans la gueule du monstre des sables Sarlacc dans le film Le Retour du Jedi ?
Tu l'as...
Qui fait tomber Boba Fett ?
Ouais.
Il tombe tout seul, en fait, non ?
En fait, c'est Han Solo.
Il se fait pousser du truc, mais il part avec son jetpack.
C'est ça. Mais en fait, Han Solo, il arrive à vaincre Boba Fett sans faire exprès. C'est ça qui est assez ouf. Il est aveugle à ce moment-là.
Ouais, ouais.
Et t'as Chewbacca qui fait... Et lui, il fait... Boba Fett ! Il se retourne, et avec un bâton comme ça, il active le jetpack de Boba Fett sans faire exprès. Et l'autre, il se vient comme une merde dans le Sarlacc.
C'est en effet Han Solo. On apprendra plus tard qu'il échappe à la digestion, enfin que Boba Fett efface à la digestion du gérant Sarlacc. Et qui. Bah, c'est comme gérant. Ça. Gérant, G-E-R-A-N-D.
Ah ouais, non, c'est. Le grand. Non, le grand Sarlacc, ça doit être. Ils ont dû faire une faute de frappe. Okay.
Donc, c'est effectivement Han Solo qui fait tomber le chasseur de primes Boba Fett dans la gueule du monstre. On apprendra plus tard qu'il échappe d'ailleurs à la digestion, à sa digestion, et qu'il reviendra dans l'histoire. Question.
Dans une série de merde.
Question suivante. Quel taux de midi-chlorien Anakin possède-t-il Quel taux de midi-chlorien Anakin possède-t-il lorsque Qui-Gon. C'est comme ça que ça se prononce ?
Qui-Gon,
ok. Qui-Gon. Donc, quel taux de midi-chlorien Anakin possède-t-il lorsque Qui-Gon l'analyse la première fois ? Est-ce que vous voulez une réponse à choix multiple ?
Parce que c'est un chiffre précis ?
Non, c'est supérieur.
C'est plus de...
Supérieur à 20 000.
Plus de 20 000, c'est une réponse absolument correcte, Chris. C'est beau. Question 10. Quel mystique...
J'ai pas de meufs, c'est pour ça.
Quel mystique de la connaissance est le maître de Dark Sidious ?
Alors, Jus, est-ce que tu as pas de meuf toi aussi? Ou est-ce que tu as une meuf?
Le maître de Darth Sidious?
Ouais.
J'avoue que je sais pas.
Ah ouais, tu as chaud une meuf toi. Voilà.
Chris, tu sais?
Et malheureusement, oui. Hein. C'est Dark Plagueis. Dark Plagueis, le sage, comme on l'appelle.
Dark Plagueis, c'est une bonne réponse. Seigneur noir des Sith, il possédait un pouvoir inimaginable qui lui permettait de garder les gens en vie avec la force. Ouais. Question numéro 1. Quel est le nom de la créature qui vit sous Jabba le Hutt? Juste cette question est pour toi, elle a été écrite par Chris et pas par le Sith nul.
Mais
c'est un piège. It's a trap.
Et oui, parce que je sais pas, c'est pas Bob Fortuna.
Après Bip Bip Fortuna, voici Bob
ça,
Fortuna.
Ça c'est un cancer de la gorge.
Ah ouais, tiens, ouais, t'as chaud.
L'espèce de chat là, le chat Mira.
Ouais, qui rigole comme ça. Ouais, pas comme ça.
Mais... Ouais, comment il s'appelle?
Ouais. Mais je sais pas. Mais je pense que Chris sait.
Et justement, en fait, c'est une question que je t'ai posée plein de fois. T'as pas remarqué, mais dans nos 30 ans d'amitié, plein de fois je t'ai posé cette question.
Mais parce que du coup, je sais que tu as l'info, donc mon cerveau se dit qu'il a pas besoin de.
Ouais, tu sais qu'il y en a un des deux.
Garder l'information parce que tu l'as, donc j'aurais juste à te demander.
Je comprends.
Chris, moi non plus, je sais pas comment il s'appelle ce chat démoniaque qui vit sur Jabba. Sous Jabba.
Cette créature démoniaque s'appelle Salacious Crumb.
On dirait Tarpin, un nom d'Harry Potter. Tu sais, après Salazar Serpentard, Salacious Crumb.
Salacious Crumb.
Il est très, très évocateur ce nom d'ailleurs, Salacious Crumb. Tu sens qu'il croustille et qu'il est sale et que t'as pas envie d'être son pote.
Dernière question du quiz, est-ce que vous seriez capable de me citer tous les noms des acteurs qui ont joué Dark Vador?
Il y a David Prowse.
James Earl Jones.
Donc David Prowse qui est sous le costume la plupart du temps. James Earl Jones qui fait la voix.
Absolutely, indeed. Il y a du coup Hayden Christensen dans la prélogie.
Oui.
Il y a Bob Anderson, je crois que c'est, le maître d'armes. Bob Anderson, le maître d'armes qui joue Vador du coup dans les scènes de combat.
La trilogie originale.
Dans la trilogie originale et qui est devenu chorégraphe de combat pour le cinéma. D'ailleurs, je crois qu'il a fait les combats notamment de Matrix ou des trucs comme ça.
Faut pas abuser non plus, mais
il a créé Matrix.
Il a dû faire des James Bond.
Bon bref. Celui qui du coup joue Vador à visage découvert à la fin du 6. Lui,
Sébastien Shaw.
Absolument, c'est bravo. Ouais. Je pense que Chris gagne ce quiz à plate couture.
Je me suis rappelé grâce à notre ami Sébastien.
C'est comme ça que je me souviens du nom de Sébastien Shaw. Chaque fois, je pense à Sébastien en Vador et ça marche.
Pour finir cette émission, je vous propose d'écouter Victory Celebration de l'immense John Williams, qui nous a composé, comme d'habitude, une régalade pour cette saga du film. Ce serait quoi votre petit mot de la fin pour dire au revoir aux personnes qui nous écoutent?
Moi, je voudrais dire big up à C3PO et R2D2, parce que pour moi, c'est un peu les personnages principaux de la saga. Mmh. C'est quand même le 4 commun sur eux. Et ils sont dans tous les films. Vu que c'est des robots qui vieillissent pas, ils sont vraiment dans toute la saga, même les films de merde. Et voilà, on pense pas assez à eux.
Ouais, c'est les S.
C'est quand même, ils sont dans des costumes compliqués à porter. Mmh. Big up, voilà.
C'est beau, hein. C'est vrai qu'ils ont toujours été là, effectivement. Moi, ce que j'aurais à dire, c'est que ce qui est important avec Star Wars, c'est que malgré le fait que nous, on est un peu des puristes et qu'on aime les anciens, particulièrement les vieux, parce que c'est notre enfance, c'est vraiment toute notre enfance, Star Wars, il faut toujours garder à l'esprit que Star Wars a de multiples facettes et qu'il n'existe pas un vrai Star Wars. Il y a la postlogie, la prélogie, Clone Wars, les jeux vidéo, les comics, l'univers étendu, les jouets, bref, toutes sortes d'histoires qui font font rêver et développent l'imaginaire du coup des enfants. Et après on peut aimer un aspect et ne pas en aimer un autre, mais toujours respecter le Star Wars des autres, car c'est quelque chose de précieux.
Voilà. Merci beaucoup et merci d'avoir écouté notre chronique ciné sur Radio Galère. Très bonne suite de journée. On se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique ciné avec Letty, Chris et Jus. Bisous à tous.
Bisous.
Ciao.